la baleine. » Elle ne réagit pas. Des morves comme celle-là, elle en a déjà entendu tant qu'elle s'est fabriqué une carapace, des murs entre les oreilles et le cerveau. Et si, par mégarde parfois, le poison parvient à franchir l'obstacle, elle transforme les mots en images. Une baleine. C'est un animal d'une beauté extraordinaire, d'une élégance rare, le cachalot surtout, ou le rorquel bleu, la plus grande. C'est énorme et c'est beau. Quand tu la vois extraire son corps immense de la surface d'un océan, ce geste est un ballet à lui tout seul, un hymne, et ça touche au divin. La rumeur la ramène au présent. La baleine élégante s'efface de son esprit, devant, les tronches et les cris des gamins lui font face, il s'était passé le mot. On l'attend à la sortie de l'école. Le teigneux garde la distance lorsqu'il crache. Il se prénomme Martin. Un rouquin, les cheveux coupés ras, le nez déjà vieux à force de recevoir la visite de ses doigts crasseux. La meute provoque ce culot. Tout seul, il n'oserait pas. Derrière lui, les rires, les encouragements des autres, les « vas-y, vas-y, fous-lui sur la gueule à cette pouffe » lui donnent non pas du courage, trop noble en la circonstance, mais ce côté bravache. Il joue au fanfaron, à l'invincible. « Alors, la grosse, t'as pas les couilles de répondre, hein ? Prends ta graisse, retourne dans ta niche. Tu fais tâche ici. » C'est alors qu'elle se redresse. Personne n'a rien vu venir, surtout pas le Martin. Il vient d'ailleurs de jeter un coup d'œil entendu aux copains, histoire de mesurer l'effet de ses mots, montrer qu'il maîtrise le coup, avant l'estocade, la mise à mort. Mais il n'a pas le temps. La fille d'une jambe habile, comme une baleine bleue sortant de l'eau à ce moment-là, lui balance un pied à l'endroit précis où ses petites couilles à lui sont accrochées. Une seconde plus tard, il se tord de douleur au sol, le visage blanc, la lippe en grimace hurlante. Les autres ont décampé. Plus tard, on dira que c'est à cause de ça que Martin était incapable de sauter les filles. Mathilda est une femme majuscule, un corps de plis et de bosse, avec des trucs qui débordent, un trop-plein à l'intérieur, des formes superlatives. Lorsqu'elle s'aime, un peu, parfois, c'est pas souvent. Elle dit « ronde et belle. » Mais le plus souvent, c'est grosse et moche. Petite, elle aimait ça. Elle avait le sentiment de respirer à plein poumon, la vie, la lumière, les couleurs, le monde, quand son père la soulevait de terre en l'appelant « ma petite boule ». Un jour, un instituteur pas très net lui avait pincé la joue entre le pouce et l'index, une joue qu'elle avait rouge et rebondie en disant à la cantonade « tiens, mais c'est qu'on ferait de jolis steaks tartare avec ces morceaux-là. » La classe avait rigolé. Elle avait capté les mains placées devant les bouches pour filer une vacherie aux voisins, les petits mots glissés à l'oreille, les regards moqueurs et ce surnom qu'on lui avait donné depuis. Taras Boulbat. C'est plus tard que la baleine était arrivée. Moby Dick, le tonneau, la dondaine, la grosse dondon, la grosse tout court, boule de billard, l'obèse pour finir. À 12 ans, on la regardait du coin de l'œil. Son poids avait pris de l'avance. Le boulanger la contemplait de haut, les yeux plongés sur ce qui s'échappait déjà, en lui disant qu'elle avait du monde au balcon, qu'il faudrait bientôt agrandir la terrasse. À 14, son père ne la prenait plus dans ses bras, comme il le faisait lorsqu'elle était enfant. Sa mère l'avait mise au régime, le début d'un long combat fait d'injonctions, de privations, de tortures, du regard méprisant des docteurs consultés. « Mangez moins, mademoiselle, faites un effort, vous vous laissez aller. Le monde n'est pas fait pour les gros, vous savez. Vous avez pris 5 kilos depuis la dernière fois. » L'amour, enfin l'amour, une forme de gymnastique mêlée à la tauromachie. Elle l'avait connu sur la banquette arrière d'une voiture qui sentait le fromage avarié et la cigarette froide. C'était un soir d'hiver, au dernier tiers d'un match de hockey. L'autre, un grand, lui avait mis la main au cul et elle s'était laissée entraîner hors de l'enceinte à la faveur d'une explosion, la joie d'une foule exaltée par une rondelle finement placée au fond du lit. Sa rondelle à elle avait éclaté juste après, prise à la hussarde, sans finesse excessive, la gueule écrasée contre le cuir d'un siège, les fesses en l'air, le froid de l'hiver, la culotte à peine aux genoux, et lui derrière, les mains grippées à ses plis de chaque côté, quelques coups de butoir, un souffle de taureau en rut, des han-han de fond de gorge, et tout était terminé. Le mec sortait déjà de la voiture en reboutonnant sa braguette. Elle vit s'éloigner une des gaines en contre-jour, de petits nuages de vapeur précipités l'accompagnaient. Il faisait moins 10 degrés et elle avait 17 ans. Depuis cette nuit d'hiver, elle avait appris à haïr le regard des hommes, tous les regards. Ceux qui la soupèsent, la dérobade, les yeux en laminaire, sans un mot, lui reprochent d'exister, ces œillades entendues qui lui serreraient bien la ceinture si on leur demandait leur avis. Ceux qui la déshabillent illico. Ils ont beau feinter, surtout lorsqu'ils sont en bande, rivaliser de mépris en présence de la grosse, se taper les coudes, la pipe en dégoût pour la galerie. Mathilda voit bien qu'ils arpentent, mesure la rondeur, l'ascension sans cordée, le chevauchement horizontal. Elle ne se retourne plus sur les colibets. Elle sait déjà que l'un d'eux mimera la danse amère, les bras écartés, les mains plus larges encore, le bassin en coup de boutoir et le halètement court. Et les rires gras qui suivent. Mathilda s'accroupit sur le bidet, et un filet d'urine chaude chante sur la porcelaine. À côté, la chambre est étrangement calme. Un air d'été entre par la fenêtre ouverte. Sur le lit, un homme est allongé. Le visage est tourné en direction de l'été. Les yeux caressés par l'ombre des rideaux, jambes légèrement écartées, le sexe au repos. Un bras dépasse du matelas, suspendu au-dessus du sol, et l'angle qu'il fait par rapport au corps donne l'impression qu'il hèle silencieusement le taxi passant à cet instant dans la rue. Des phares entrent dans la pièce quelques secondes, le temps des ombres projetées. De gauche à droite, la silhouette d'une plante traverse le mur blanc derrière le lit, grandit à mesure que le véhicule se rapproche puis s'amenuise avant de s'évanouir. Une plante carnivore justement placée en bordure de fenêtre. L'homme, ou plus exactement le corps de l'homme, est étendu sur le dos. Mathilda est nue lorsqu'elle sort de la salle de bain, un verre d'eau fraîche à la main. L'été étouffe. Elle jette un coup d'œil sur le corps. Un instant, quelques vers se glissent dans la sueur de la chambre. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Elle sourit à l'image que les mots évoquent, et le fil de la soirée revient. Le gars n'a rien pour lui. Des cheveux roux, un nez trop grand, des oreilles décollées, un corps sec. À peine sa bouche, ronde et charnue, vaut-elle le détour, sa bouche et sa langue, les paroles qu'il murmure. Il lui a dit qu'elle était belle, que les femmes, c'était ainsi qu'il les désirait, les voulait, pleines, épanouies, vivantes, parce qu'il avait des mains faites pour les habiter. Elle le remarque immédiatement dans ce petit bar du port, un bar à pute où elle vient de temps en temps lorsque la lune exige qu'elle chasse. Elle porte une robe rouge, la petite, celle qui la moule comme une anémone et lui donne l'allure des filles du coin, parfaitement adaptée au paysage nocturne. L'été permet cela, les peaux découvertes et le sexe en périscope. Hugo, le mec s'appelle Hugo, est un militaire en garnison de l'autre côté du fleuve. Il est jeune, pas beau du tout, mais ses yeux en rondelles le trahissent. Il a besoin d'occuper ses mains à autre chose que les plaisirs solitaires volés dans les chiottes de la caserne. Il veut encore, un vrai. Et cette femme en robe rouge est exactement ce que son fond de culotte exige. Mathilda l'embarque après un verre, un petit verre de rien du tout. Il se répand déjà en petits mots grivois, les yeux allumés, la trique dans le pantalon. Elle traverse la ville dans sa voiture rouge, empêchant le gars d'avancer ses doigts entre ses cuisses, et ils arrivent chez elle. Le militaire se déshabille, la queue droite, lui arrache ses vêtements, la petite robe rouge déchirée d'un coup pour l'entraîner sur le lit, lumière éteinte, un courant d'air chaud entrant par la fenêtre, l'ombre des corps projetée sur l'écran opposé, au-dessus des draps. Jusque-là, elle avait joué avec lui, le laissant guider, conduire le mouvement, ou du moins lui donner l'impression que c'est lui qui menait la danse. Mais ils sont maintenant sur son territoire, et elle connaît les recoins, les humeurs, les odeurs, les allures les plus secrètes. Lentement, elle se glisse au-dessus de l'homme, s'assied à califourchon sur le torse glabre, lui saisit les bras, plaque ses mains à lui sur ses seins, ses grands seins majestueux, et leur imprime un mouvement doux autour, lui apprend des gestes de magicien noctambule. Il tente de retenir, de saisir, d'attraper, mais c'est elle qui impose la chorégraphie des doigts perdus dans l'immensité de la chair. Subrepticement, elle avance, un centimètre après l'autre, son grand corps ondule en vagues successives, elle sent cogner le cœur d'Hugo, il est encore Hugo avant d'être sa chose, entre ses cuisses ouvertes, le rythme haletant de sa respiration, des poumons qui appellent l'air, se battent, s'ouvrent, se ferment de plus en plus vite, jusqu'à l'instant précis où elle pose son sexe large sur la bouche de l'homme. La proie a quelques soubresauts, un cri étouffé, les jambes frappent le vide comme des ailes de moulin désordonnées, le corps se cambre en arc, tente de fuir le piège, de se dégager, la tête d'échapper à la prise qui se ferme à mesure avant de se relâcher d'un coup, vaincu. Il éjacule à l'instant du dernier souffle. Dès le lendemain, elle surveille les gazettes. Il faut 3 jours avant qu'une rumeur journalistique ne s'étale, en bas de 3e page, entre les lignes d'un appel à témoins. Un soldat de la caserne a disparu. Son nom et sa photo sont publiés. Sur l'image, elle ne voit que ses grandes oreilles, et un frisson lui parcourt l'échine lorsqu'elle songe à sa ventouse ouverte large sur son sexe. Quand cela avait-il commencé? L'idée lui était venue, par hasard, après la vision distraite d'un documentaire animalier. Elle se souvenait de plaines australiennes. La caméra y découvrait un animal étrange, le wombat, un marsupial à l'apparence paisible. Mais il suffisait d'une seconde pour qu'il se transforme en bête féroce lorsque, pour se défendre, il écrasait le crâne de son prédateur avec ses mâchoires ou l'étouffait entre ses fesses. Mathilda avait essayé le soir même, à l'angle d'une rue sombre et déserte. Elle s'était transformée en tapineuse débutante, un homme s'était approché, lui avait demandé le tarif, elle avait dit un prix dérisoire et le gars l'avait entreprise sur le champ, debout contre une porte de cave. Elle l'avait saisi dans sa poitrine et il n'en était plus ressorti. Ce qu'elle faisait des corps après, le gars de la ruelle, elle l'avait laissé là. En découvrant un cadavre bleu, la gueule cyanosée, personne n'avait rien compris. Le dossier avait refroidi aussi vite. Hugo, elle l'avait emmailloté dans ses draps, un linceul clair et sobre, et elle l'avait transporté jusqu'au chantier du fleuve. Les ouvriers venaient d'y creuser les fondations d'un pont nouveau. Il avait suffi de le balancer dans le caisson d'un pilier. Le lendemain, les bétonneuses avaient rempli le trou sans que quiconque s'en aperçoive. Plus personne n'eut de nouvelles du soldat Hugo M. Timide et dépressif, dont les rapports militaires diront qu'il s'était certainement jeté à l'eau après une soirée arrosée au bar de la marine. Depuis 2 ans, elle partait régulièrement à la chasse aux zèbres. C'est elle qui appelait les choses ainsi. Elle aimait varier les stratégies, les approches. Jamais de la même manière, pour brouiller les pistes, y gagner de l'expérience, inventer des stratagèmes. Parfois, sur le fil d'une petite annonce, elle répondait aux hommes qui reniflaient. Disait aimer les dodus, les poitrines fortes, donnait une fausse adresse, une identité empruntée, la boîte aux lettres d'une vieille qui ne la relevait jamais. D'autres fois, elle s'aventurait dans les boîtes interlopes, les endroits fréquentés par les soldats du coin. Ils aiment les grosses, lui disait-on, et il suffisait qu'elle frotte son cul à un ceinturon pour sentir une gaule longtemps privée de sortie gonfler le pantalon. Une nuit, elle avait embarqué un marin polonais, un petit rabelais qui s'était glissé sous sa jupe lors d'une danse au corps à corps. Une seconde, elle avait hésité à serrer les fesses à cet endroit, mais elle s'était ravisée. Elle avait laissé traîner son nez dans sa culotte avant de le prendre sous le bras et de quitter la piste. Dans son lit, alors qu'il tenait son pénis à deux mains, fier de son érection, elle s'était étendue sur lui de tout son corps. Sous le choc, les ressorts du lit avaient hurlé, lui aussi, mais en silence. Un cri empêché par une masse de 150 kilos, bâillonné par des seins gargantuesques, les deux mains encore agrippées à sa queue comme un porte-drapeau tentant désespérément de résister à la force du vent. Un jour, Mathilda rencontre Yon. Elle l'entend avant de le voir. Parce que l'oreille perçoit plus rapidement que l'œil. Un son, lointain d'abord, plus proche à mesure qu'elle marche, plusieurs, une harmonie, une voix humaine, ou proche de la voix humaine, elle en cherche la source, le regard accompagne l'oreille, suit la piste, il est là, dans la rue, alors que le monde s'agite et passe, passe sans le voir, passe sans prêter attention à ce que la musique, cette musique, a de magique, d'envoûtant, d'extraordinaire, une manière à lui de faire danser ses doigts sur le manche, une longue main, l'autre entraînant l'archet sur les cordes, des cordes qui l'effleurent, des bras d'oiseau en mouvement, l'aile gauche verticale, la droite ample, elle s'ouvre, se déploie, revient, s'envole, la hausse attaque à nouveau, repart. Jamais une musique ne l'avait ainsi happée au passage. Alors elle s'arrête, et ça la bouleverse. Son immobilité contraste avec le flot passant à l'heure de midi. Ce n'est pas l'homme qu'elle voit, pas immédiatement. Ses mains peut-être, mais elle pourrait être accrochée à des fils de marionnettistes. Ses mains donc, la vibration des cordes, le balai d'un archet et les sons. Le brouhaha de trottoir s'estompe, les klaxons se figent, les conversations disparaissent. Plus rien d'autre n'existe. Dans le flux piétonnier, une baleine écoute un violoncelle, les yeux clos. Elle revient à la réalité de la rue lorsqu'un passant la heurte en grommelant, une insulte proférée derrière elle, dans le dos, « Bouge-toi, gros tas !» ou quelque chose qui sonne ainsi, le même dédain qu'elle perçoit dans tous les yeux. Ce n'est qu'alors qu'elle découvre le musicien au-delà de l'instrument. Elle ignore qu'il s'agit de Yon. Ils ne se connaissent pas encore. Elle est même déçue que ce soit un homme. L'image réveille déjà l'animal cannibale, la plante carnivore, lorsque la musique s'éteint. Mathilda ne désire alors qu'une chose, disparaître. Parce qu'elle sait, dès qu'il la verra, il la pèsera. Or, le musicien est immobile. Il tient son instrument entre les jambes, les mains posées sur la table d'harmonie. Sa bouche, ses joues, ses pommettes étroites, son visage rayonne d'une joie intérieure, tout sourit en lui, jusqu'à ses épaules. Ses yeux sont masqués par de grandes lunettes noires, mais ils ont une si belle manière de s'écarquiller qu'elle en devine la douceur. Elle croit une seule seconde avant de se dire que c'est impossible. Elle imagine que c'est elle, sa vision, sa présence de l'autre côté de la rue, seule spectatrice de ce moment éphémère qui lui inspire une tendresse. Il la regarde. Puis sa main, son bras, son corps bouge, un mouvement précis, une exploration qui sait où elle va. La tête, les yeux n'accompagnent pas le geste qui avance avec prudence, à tâtons, pour atteindre l'étui du violoncelle posé juste devant, à portée. La main fine rassemble quelques pièces d'argent négligemment jetées là. L'aveugle ne voit pas Mathilda s'éloigner. Elle revient souvent se poser de l'autre côté de la rue. Elle attend. Il arrive généralement avant le milieu du jour, lorsque les ombres sont courtes. Son ombre à elle, Mathilda la préfère le matin, quand elle est devant, longue, étendue, la trace projetée du soleil à peine levée, la lumière dans le dos et la jolie silhouette que ça lui fait. C'est ainsi qu'elle aime se voir. À midi, l'ombre ne montre plus qu'une masse sombre, une forme épaisse et dense de baudruche écrasée. Elle, vue du dessus, en plombée, elle et son immensité, sa démesure, sa masse qui part au large, elle et son quintal et demi. Mathilda n'aime pas le soleil vertical. Un jour, Yon lui parle. Il attend un silence. Les passants plus rares de midi après la cohue pour l'appeler, l'inviter à se rapprocher. Un signe qu'elle croit d'abord adressé à quelqu'un d'autre, elle se retourne, personne. C'est bien à elle que le geste est destiné. Il dit « Bonjour, je m'appelle Yon. » Elle se présente, lui demande comment il avait deviné sa présence. « Ce n'est pas la première fois que vous êtes là. Je ne vous vois pas, mais je vous sens. J'avais envie d'entendre votre voix. » C'est plus tard, chez lui, le même jour, qu'il la prend dans ses bras. Il le fait sans hâte, comme on accueille une préciosité. Dans la valse lente que leurs deux corps entament, elle vit en apesanteur. Le rythme porté l'un par l'autre, une cadence musicale, des silences, des souffles, une légèreté qu'elle n'avait jamais vécue auparavant, alors qu'elle se sent sortir de l'eau, beauté extraordinaire, d'une élégance rare. Mouvement d'un ballet à lui tout seul, un hymne qui touche au divin. Mathilda découvre que des mains d'homme peuvent explorer sans accaparer, sans prendre possession, délicatement. Elle n'éteint pas la lumière.